France Culture.
Camarades, mes premiers mots seront pour vous dire, le cœur rempli de joie, que c'est la dernière session de notre comité central qui se tient à l'absence de notre secrétaire général, notre grand et cher camarade Maurice Barrès.
Les voix du PCF, archives sonores du communisme français. Un documentaire d'Anne Toscan-Jugas, réalisé par Anne Fleury. Deuxième épisode, les mots du parti au cœur du comité central. Les enregistrements commencent en 1952. Est-ce qu'on a une idée de ce qui motive ces enregistrements? Est-ce que c'est une directive qui vient de Moscou?
On n'a vraiment aucune archive permettant de dire qu'est-ce qui motive ces enregistrements.
Jean Vigreux,
bien sûr,
professeur en histoire contemporaine,
dans une logique de complot permanent, de procès. Ça participe de tout ça, mais il ne faut jamais perdre de vue que cette logique du complot, elle était aussi dans le bloc de l'Ouest, le maccartisme. Donc on est au cœur de cette volonté de contrôle. Et pas de déviation, qu'elle soit titiste à partir de 1949 ou d'autres choses. Mais je pense pas que les enregistrements se soient liés forcément à ça.
Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que le PCF est particulièrement conscient de l'importance de construire une mémoire, notamment suite à l'expérience de la clandestinité pendant les années de guerre?
Alors, il y a l'expérience de la clandestinité, vous avez entièrement raison, et c'est important de reconstruire cette mémoire, d'avoir cette mémoire. Mais c'est aussi, je pense, un héritage de l'histoire du mouvement ouvrier. Il faut jamais perdre de vue qu'en France, entre autres en 1935, vous avez la naissance et la création, sous l'égide de Jacques Duclos, du musée d'histoire vivante de Montreuil. Et donc, cette volonté est celle de rendre visible et de garder la mémoire des luttes anciennes et de ce qui était invisible. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est repris et calqué sur l'Union soviétique et ce qui se fait en Union soviétique. N'oublions pas que l'Institut du marxisme-léninisme, donc qui est fondé à Moscou, achète des archives de manière importante du fonds Babeuf concernant la Révolution française. C'est-à-dire que la Troisième Internationale, étant la troisième du nom, se voulant dans la suite de la deuxième, de la première et de tout ce qui existait sur le mouvement ouvrier, faisait un continuum, ce qui est une lecture théologique, mais qui n'est pas forcément la réalité. Mais en tout cas, la volonté était de dire « nous sommes les héritiers du mouvement ouvrier ». Donc on inscrit cette histoire, on enchâsse cette histoire dans quelque chose qui permet effectivement d'avoir des codes communs et une culture commune.
On sait aussi comment l'anarchiste Martineau se dressa contre le pouvoir des
Jacques
soviets
Duclos, et mena comité central du 8 juillet 1968,
faisant ainsi le jeu de la contre-révolution. La politique aventuriste, sectaire et en même temps opportuniste des Bakouliniens, reflétant les colères, les impatiences, les vacillations d'une petite bourgeoisie sans perspective, s'appuyait aussi sur les couches les moins évoluées de la classe ouvrière, notamment dans des pays comme l'Espagne, l'Italie et même la Suisse. Et elle trouvait également un certain appui parmi les éléments proudhoniens de Belgique et sur un certain nombre de Français que la défaite de la Commune de Paris avait contraint à l'exil et plongé dans l'accablement. Et par le jeu d'un rapprochement apparemment paradoxal, dont l'histoire a fourni depuis 20 exemples, on pouvait voir les gauchistes bakouniniens soutenus par les droitiers des traits d'alliance de Grande-Bretagne.
Moi, mon hypothèse, c'est que le premier enregistrement du comité central, c'est le premier comité central où Maurice Thorez est absent du fait de sa maladie.
Frédéric Genevet,
et donc,
historien,
l'hypothèse que
anciennement responsable des archives du Parti communiste français.
Ils ont enregistré pour ensuite pouvoir lui communiquer les débats, les discussions qui pouvaient avoir lieu. Et une fois qu'ils ont fait ça, l'habitude en a été prise et puis ils ont continué pendant des années. À mon sens, personne n'écoutait ces archives. Peut-être que Maurice Thorez les a écoutées au tout début, si tant est que du fait de sa maladie, il en fut capable au début, puis ensuite il est parti à se faire soigner en URSS, donc ça rendait les choses compliquées. à mon sens, ces enregistrements qui sont très longs, un comité central, une réunion de comité central, ça peut se tenir sur une journée, deux jours, trois jours. Donc ça fait des dizaines d'heures d'enregistrement. Je vois mal des dirigeants qui sont débordés par l'activité politique quotidienne prendre le temps d'écouter.
De la même manière, on n'a aucune preuve que ces archives aient pu être envoyées à Moscou pour une quelconque velléité de surveillance.
Alors ça, c'est la même chose que pour les archives papier. Depuis le milieu des années 20, depuis les nouveaux statuts de l'international communiste qui avaient été décidés en 1924, un des articles des statuts disait que les sections de l'international communiste, donc les partis communistes comme celui de France ou d'Italie ou d'Espagne, étaient des sections de l'international communiste et avaient pour devait obligatoirement envoyer des archives à Moscou, au siège de l'international communiste. D'ailleurs, c'est ce qui a sauvé les archives du PCF, puisque sinon elles auraient été perdues, détruites au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'on a des archives pour les années 20 et pour les années 30. L'international communiste est dissoute en 1943. Et ses fonctions sont reprises par le département de politique étrangère du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc ça a peut-être continué au lendemain de la guerre, mais on n'a aucune confirmation. On a la confirmation pour le Parti communiste italien, qui au moins jusqu'en 1958 a continué à envoyer des archives à Moscou, ce qui n'est pas le cas pour le PCF. Mais vous savez qu'en matière d'archives, il faut jamais être définitif, parce que si les documents existent, ils finiront par ressurgir. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas du tout attesté.
Il n'est pas impossible que ça soit la conséquence de consignes en général discrètes, de plus en plus discrètes, venues de Moscou. Possible. Mais nous n'en avons pas de démonstration. La seule chose que l'on peut dire, c'est ça se fait dans un moment où il y a une culture paranoïaque de la nécessité de dépister l'ennemi de l'intérieur qui devient à un moment donné politiquement et culturellement dominante.
Roger Martelly, bonjour. Peut-être pourrions-nous commencer par présenter votre parcours d'historien qui est aussi très imbriqué avec celui de votre parcours dans la vie politique.
En fait, j'ai rencontré, j'allais dire, le Parti communiste au début du mois de mai 68. J'étais d'une famille de gauche, mais je n'avais aucun engagement et j'ignorais absolument tout du PC. Mais il se trouve que comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai été, dès le 8 mai 68, pris dans le maelstrom de ce qu'on appelait les événements. Et je dois dire qu'à partir de là, il s'est trouvé que sur place, à Marseille, où je vivais, où je faisais mes études, je trouvais que dans le mouvement qui se déployait, le mouvement étudiant, les étudiants communistes étaient ceux qui me paraissaient à la fois les plus à gauche, les plus raisonnables. Et donc, je me suis retrouvé de ce côté-là, un peu par les hasards de la vie, de ce fait, mais des hasards de la vie qui ont structuré quand même assez durablement mon parcours, puisque je suis resté plus de 40 ans membre du Parti communiste français. Et j'ai été membre du comité central et partiellement de ceux qui a remplacé le bureau politique pendant 26 ans, entre 1982 et 2008. Voilà. Pour ce qui concerne l'engagement historien, je n'avais pas décidé au départ d'être historien. Je faisais du latin et du grec, le grec, et je pensais en fait que je ferais plutôt de l'histoire grecque. Et puis, 68 arrivant, il se trouve que mon engagement historien s'est déplacé vers la période contemporaine et le fait que, à partir de 1972, j'ai été associé à une institution de recherche intellectuelle créée par le PC qui s'appelle l'Institut Maurice Thorez, qui deviendra en 1980 l'Institut de recherche marxiste. Et là, avec une génération de jeunes historiens communistes frais moulus de l'agrégation, nous nous sommes mis à travailler ensemble et à travailler notamment sur l'histoire du PC. Et chance pour nous, qui a à voir avec notre sujet, il se trouve que dans les années 70, nous avons disposé pendant une période à notre bénéfice exclusif à des archives qui jusqu'alors étaient des archives inédites. Des archives venues de Moscou, microfilmées, venues des archives de l'International communiste, mais aussi des archives qui étaient des archives de la direction française, stockées en France et qui jusqu'alors servaient à l'usage exclusif de la direction. Et j'ai donc eu le bonheur de me familiariser avec les archives du communisme, les archives écrites, bien sûr, mais aussi, bien sûr, les archives sonores, qui étaient quand même une très grande originalité.
Eh bien, quelle est la conclusion que je pourrais tirer de ces observations un peu désordonnées?
Raoul Calas, 22 juin 1956.
Pourquoi ne pas manifester notre confiance dans une révolution à l'égard de Maurice Thorez et son bureau politique? On les met en cause, on les attaque, directement ou insidieusement, pour ne pas proclamer aujourd'hui même notre confiance à leur égard. Et puis, pas une confiance aveugle, une confiance basée sur les faits, sur la politique suivie, par l'orientation donnée à la politique française. Pourquoi pas? Et puis, je fais une dernière proposition. Je crois que nous avons besoin d'une histoire du Parti communiste français. Certes, c'est vrai, nous avons le livre de Maurice, fils du peuple, nous avons une série d'éléments dispersés. Mais combien de jeunes camarades, de jeunes adhérents du parti, venus au parti depuis 1945, ignorent la politique, la vie du parti, n'ont pas vu sa formation, ne la connaissent pas ou la connaissent mal? Camarades, ce serait pour nous, écrire, je sais bien, c'est une chose difficile, qui réclame des efforts considérables, mais écrire cette histoire du Parti communiste français, ce serait à la fois montrer le rôle du parti, de chacun de ses membres et de chacun de ses dirigeants, et puis la participation capitale de Maurice Thorez à sa formation. Car aucun d'entre nous ne peut penser...
Si vous voulez, on dit histoire, nous, on est en 2025, donc on dit histoire, tout ça me paraît bien lointain, et ça
Guillaume
fait
un
paquet
historien
qui rassemble les années 20, les années 50, 70, dans un même ensemble qui est... le passé. Bon, en réalité, je sais pas moi, mettez-vous en 1950, si moi je dois évoquer pour le présent, donc pour les années 50, ce qui s'est passé dans les années 20, je le fais avec mes questions des années 50, des questions politiques des années 50, et je vais visiter les années 20 en espérant mettre en avant telle ou telle leçon que moi j'en tire à tel ou tel moment. Donc ça veut dire que c'est une histoire, d'abord, dont l'orientation peut bouger selon les moments, puisque la politique bouge selon les moments, et elle est construite comme ça. Le moment phare de ça, c'est le manuel d'histoire du Parti communiste qui est un petit peu une sorte d'incarnation d'un certain type de rapport à l'histoire du Parti communiste. C'est les communistes, et c'est les vieux communistes qui sont là depuis longtemps. Alors avec ce que ça peut donner des faits de vérité, parce que le côté témoignage, mais en même temps une histoire très, très politique, dans un contexte aussi où de toute façon, ils ne sont pas les seuls, il y a d'autres types d'histoires qui se font du Parti communiste, hors dehors du Parti communiste, qui ont parfois un rapport très académique et parfois un rapport très politique aussi à cette histoire-là. Donc c'est une histoire de combat, en quelque sorte, qui se fait là. Effectivement, dans les années 70, il y a toute une montée en puissance d'universitaires tout court, et il y a plus de travaux en histoire tout court sur le communisme. On pense évidemment à Annick Riegel dès les années 60. Les années 70, il y a évidemment Philippe Robrieux.
Roger Martelly, vous arrivez en politique et dans le métier d'historien à un moment très particulier de l'histoire du Parti
Bien
communiste.
Sûr.
Et dans un moment de vraie transition dans le rapport à son histoire et à sa mémoire, est-ce qu'on peut parler des années 70 comme une période de laïcisation?
Ah oui, moi j'allais dire depuis longtemps employer cette image. En réalité, nous étions très divers. Il ne faut pas s'imaginer que nous étions une cohorte de fer qui était là pour porter la bonne parole. Enfin non, pas du tout, pas du tout. Ce qui nous a un peu rassemblés, c'est le fait que nous ne voulions surtout pas de l'histoire officielle. Il se trouve qu'en 1956, dans un moment qui était un moment délicat, la déstalinisation et la difficulté pour le PC de faire face à cette déstalinisation, le congrès du parti de 56 avait décidé de s'engager dans un travail de rédaction d'une histoire du Parti communiste. Cette histoire débouche en 1964 sur la publication d'un manuel d'histoire du PC qui avait été rédigé sous le contrôle étroit du bureau politique. C'est-à-dire que ça n'était pas véritablement des historiens du communisme qui avaient fait ce thème, mais c'était des dirigeants politiques dont certains étaient des historiens, mais le fruit de leur travail avait fait l'objet de plusieurs réunions, relectures du bureau politique pour en arriver à l'histoire officielle. Pour nous, c'était, dès le moment où nous nous sommes engagés, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Si nous avions à un moment donné une référence, c'était plutôt celle des historiens communistes italiens, qui avaient pris l'habitude d'avoir un regard distancié sur l'histoire de l'URSS, sur l'histoire du mouvement communiste, sur l'histoire même du PC, et qui produisaient, en utilisant toutes les ressources disponibles, archivistiques ou pas, pour donner une version plus moderne, plus riche de l'histoire du communisme. Et nous, sans reculer devant la critique à l'égard de certaines histoires produites sur le Parti communiste, nous considérions que notre responsabilité était d'éclaircir dans toute sa complexité l'histoire du PC. Et pour ça, le recours aux archives, pour nous, était une condition fondamentale. D'où, bien sûr, notre bonheur de disposer de ce fonds d'archives, d'autant plus que, ça je dois dire, c'est un peu dégueulasse de le dire, mais au fond, nous avions un avantage, c'est qu'on était les seuls à pouvoir les consulter avant que, enfin, l'accès aux archives soit autorisé pour la totalité de la communauté historienne.
Est-ce qu'on a d'autres cas de partis communistes ou de sections internationales qui ont aussi pris cette habitude d'enregistrer leurs réunions ?
Alors, évidemment, il faut distinguer les partis communistes d'Europe de l'Est, les partis État. Donc là, évidemment, ça devait être enregistré.
Frédéric Genevet.
Mais j'en sais pas beaucoup plus. Sur les partis de l'Ouest, vous avez des partis qui ont vécu très longtemps dans la clandestinité, comme le parti communiste grec, espagnol, portugais. Donc ceux-là, ils devaient pas enregistrer leur réunion pour des raisons de sécurité.
À l'échelle européenne, aujourd'hui, on sait que le parti communiste italien faisait la même chose.
Jean Vigreux.
Ces enregistrements soit la fondation Gramsci, mais ils ne sont pas accessibles. C'est une grande différence par rapport à la France. Et d'ailleurs, les inventaires ne sont pas forcément en ligne. C'est dommage, ça serait intéressant de faire une histoire comparée.
Il y a un cas, c'est le Parti communiste de Belgique, qui a commencé à enregistrer ses réunions à partir de 1975, donc 25 ans après le PCF, sans doute pour d'autres raisons. Et il a cessé de le faire en 1992.
Vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre rencontre avec ce fonds d'archives sonores et aussi sur les défis techniques que ça a pu poser ?
Ah, ben ça, c'était évidemment une question. Alors, à partir de 1950, on dispose en plus de l'écrit, ou même parfois à la place de l'écrit, des enregistrements sonores. Comme on vous l'a dit, sur fil. Et donc, petit problème, le fil métallique, nous étions déjà à l'époque à la grande modernité de la petite bande magnétique, nous avions déjà plus les grandes bandes, mais le fil, que faire ? Et donc, il se trouve que, dans le cadre de l'Institut Maurice Thorez, nous avons acheté un appareil chez un brocanteur pour écouter les fils. Mais, évidemment, c'est pas très pratique. Et donc, pour une grande part, nous avons retranscrit sur bande magnétique les fils métalliques qui nous étaient confiés. Et je dois dire que ça a débouché sur quelque chose d'un petit peu amusant, qui est que, en 1980, on nous retire les archives qui, jusqu'alors, étaient entreposées au siège de l'Institut Maurice Thorez, c'était près de la place d'Italie, 64 boulevard Blanqui. On nous retire les archives qui avaient été déposées au début des années 70. On nous retire donc les fils métalliques. Mais ceux qui nous ont retiré les archives ne savaient pas, c'est que nous avions le double sur bande magnétique. Et donc, pendant quelques années, nous nous sommes trouvés dans cette situation bizarre, qui est que nous avions à notre disposition les archives sonores, mais nous ne pouvions pas en faire état, puisque officiellement, nous n'avions pas accès à ces archives.
La campagne que nous vous proposons d'ouvrir pour la création de l'Institut Maurice Thorez, je pensais en parler à la fin de mon intervention, mais comme celle-ci est reportée à demain matin, je crois qu'il serait bien que je donne tout de suite quelques précisions.
Georges Gosselin, député de la 50e circonscription de la Seine, 1er avril 1965.
Du comité central, prise le 9 octobre 1964, que la direction du parti a décidé de lancer une campagne pendant tout le mois d'avril en vue de trouver les fonds nécessaires à l'agrandissement des locaux du boulevard Blanqui, où se trouvent déjà la bibliothèque du parti, le CERN et la commission de l'histoire. Et cette campagne doit normalement se terminer le 28 avril, qui est le jour anniversaire de Maurice Thorez, à l'occasion d'une cérémonie solennelle qui aura lieu à la Mutualité. Les travaux d'agrandissement et d'aménagement des locaux du boulevard Blanqui coûteront environ 60 millions de francs. Et c'est pour cela que nous proposons de mener une campagne de très grande ampleur afin de recueillir beaucoup plus que les 60 millions nécessaires au financement des travaux de l'Institut, mais si possible d'en obtenir 100 ou davantage encore. C'est donc dans ces conditions que la direction du parti a envisagé deux choses. La première, c'est de mettre à la disposition des organisations du parti un matériel approprié. D'abord, une carte postale avec au recto le portrait de Maurice et au verso quelques phrases qui indiquent qu'il s'agit de la création de cet institut et que nous vous proposons de faire vendre à 200 francs ou à 500 francs.
L'Institut Maurice Thorez, au départ, n'est pas un centre de recherche. C'est donc une institution mémorielle avec une publication, ça s'appelle les cahiers de l'Institut Maurice Thorez, qui se voulait scientifique, c'est-à-dire qui était avant tout dans la ligne. Voilà, c'était ça qui était le scientifique. Quand nous arrivons, il se trouve que cette conception est en train de vaciller. Sous l'impulsion d'un homme qui va, en tout cas personnellement, me marquer énormément, Jean Burle, qui avait avec moi l'avantage d'être marseillais, ancien dirigeant métallo, résistant, investi dans l'appareil du parti et à qui on confie en 1972 la direction de l'Institut Maurice Thorez. À ce moment-là, nous avons créé plusieurs commissions de travail, dont des commissions de travail sur l'histoire du PC. Et c'est là que nous avons commencé à accumuler des matériaux, des publications, de plus en plus appuyées sur l'utilisation des archives. Donc, nous avons fait de ce lieu, qui était un lieu au départ à visée politique, structurellement rattaché à l'institution communiste, nous avons essayé du mieux que nous avons pu d'en faire un lieu de un peu de créativité qui s'inscrit en même temps dans une histoire, qui assume le lien avec cette histoire, mais qui décide de prendre la distance nécessaire par le recours aux méthodes d'analyse scientifique en débat avec évidemment d'autres communistes ou non communistes. Voilà.
Interactualité, 18 décembre 1980.
Un pavé, un gros, dans le jardin de Georges Marchais, deux militants communistes de longue date, l'écrivain Hélène Parmelin et le peintre Édouard Pignon, viennent de déchirer leurs cartes et annoncent qu'ils quittent le PC. Rupture douloureuse, car M. Pignon était entré au Parti communiste en 1933 et Mme Parmelin en 1944. Ça n'est pas sur un coup de tête qu'ils ont décidé de s'en aller, mais après une longue réflexion. Ils estiment aujourd'hui que le PC est beaucoup trop aligné sur Moscou, qu'on ne peut pas être à la la fois un militant du PCF et un militant de la liberté. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la soviétisation frénétique du parti. Oui, je précise que dans la vie, Hélène Parmelin et Édouard Pignon sont mari et femme, et ils épousent ce soir la même conviction politique.
J'ai retrouvé, ça vous intéresse que je vous lise la décision numéro 14 du bureau politique? Je suis sûr que ça vous intéresse.
Pierre Boisfeu.
Décision numéro 14, bureau politique du 28 novembre 1979. Ne plus enregistrer les interventions des camarades lors des sessions du comité central, car il s'agit d'éléments de la discussion et de contributions à l'élaboration de notre politique. Les documents des sessions du comité central sont les rapports et les résolutions adoptées.
La direction du parti décide de ne plus enregistrer les sessions du comité central. Marchais lui-même, Georges Marchais lui-même, dit pour mettre les camarades à l'aise et pour qu'ils puissent parler sans qu'il y ait de pression d'une manière ou d'une autre sur eux-mêmes. Entre parenthèses, c'est une façon de dire, mais au fond, l'enregistrement des comités centraux à partir de 1950 n'avait pas qu'une fonction, j'allais dire, mémorielle, mais que ça pouvait aussi être utilisé à charge contre celui qui émettait une opinion divergente à l'intérieur du parti. Ce qui était vrai.
Parce que vous savez qu'il y a toujours, quelles que soient les organisations, il y a toujours le même débat à propos des enregistrements. Il y en a qui pensent que enregistrer bloque le débat. Parce que on va faire attention à ce qu'on dit pour l'avenir, y compris pour sa propre image. Il y en a qui disent, bon, s'il y a des enregistrements, de toute façon, ça sera pas ouvert avant 30 ans, 40 ans ou 50 ans, donc il n'y a pas d'enjeu. Or, au début des années 80, le débat à l'intérieur du Parti communiste se tend, suite à la rupture du programme commun, suite à la dissidence de la Fédération de Paris qui est conduite par Henri Fisbin. Donc on peut imaginer que pour ces raisons, ils décident de ne pas enregistrer. Le problème de cette hypothèse, c'est que les réenregistrements réapparaissent en 1984, qui est aussi une année de forte tension politique. Donc pourquoi se remettre à réenregistrer au moment où la tension politique interne est aussi très forte?
Au fond, je n'en sais rien. Mais en même temps, d'une part, mais ça, je n'en dirai pas plus, je ne suis pas certain qu'il n'y avait pas un enregistrement parallèle. Je dirais même qu'il y a toute une série de petits indices qui me laissent penser que c'était le cas. Et donc, je pense que en 1984, la direction du parti s'est quand même rendue compte du caractère factice, artificiel plus exactement, de cette décision et a rétabli l'enregistrement en réalité. Dans un sens ou dans l'autre, bah, tout le monde dans la direction s'en foutait un peu.
Il faut éviter absolument que nos paroles aillent au-delà des gens qui se trouvent être nos interlocuteurs de hasard, blesser des gens qui demain penseront différemment de ce qu'ils pensent aujourd'hui.
Louis Aragon.
Et pour ça, je voudrais en venir à mon exemple personnel.
17 janvier 1958.
Cette chose me rappelle quelque chose que j'ai vécu. Je veux parler de 1925. À cette époque-là, je n'étais pas membre du parti et j'étais surréaliste. Je sais bien comment les choses se passaient dans ma tête. C'était la guerre du Maroc. Je trouvais insuffisant ce que faisaient les communistes. Je le disais. Je le disais honnêtement. Or, deux ans après, en 1927, j'ai été membre du parti. Ce qui prouve qu'en deux ans, il s'était produit, pour moi, une évolution de la pensée assez importante.
Aragon est vraiment...
Guillaume Roubaud-Poisson.
J'ai des souvenirs de ces moments d'écoute de cela, avec un petit casque dans une petite pièce. On était tout seul dans cette petite bulle, en quelque sorte, sonore. C'est toujours assez surprenant et émouvant, en quelque sorte, de se retrouver avec une impression de contact immédiat, comme s'il était en face.
En particulier, et cela me ramène à l'intervention de Laurent Casanova, par la négation de l'importance dans cette affaire des luttes économiques.
Parmi ces intellectuels dont les interventions sont très marquantes, il y a évidemment le cas de Louis Aragon que je voulais évoquer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les conditions de son arrivée au communisme ?
Aragon, donc 97, il est né en 97, donc il est marqué fondamentalement par l'expérience de la Première Guerre mondiale. Et il a aussi un arrière-plan familial assez lourd, puisqu'il est issu d'une famille de la grande bourgeoisie, hôtel particulier à Neuilly, etc. Mais une grande bourgeoisie particulièrement lamentable sur le plan moral, on peut dire des choses comme ça, puisqu'en l'occurrence, son père, en le faisant passer non pas pour son fils, mais lui sera une sorte de parrain, et donc sa mère ne sera pas sa mère, mais sa sœur. Enfin, une histoire absolument invraisemblable pour sauver l'ordre bourgeois et les normes et les apparences. Et ce cocktail d'enfer, si je puis dire, l'amène à une grande révolte, et en plus, ce souffle de révolte se traduit sur le plan esthétique, Dada, le surréalisme, et va se prolonger par un engagement, par rejoindre le Parti communiste, sur fond de guerre coloniale. C'est un élément assez décisif dans son parcours, puisqu'en 1925, il y a une grande mobilisation menée par les communistes et la CGTU à l'époque contre la guerre du RIF, qui est une guerre qui oppose Français et Espagnols aux RIFains qui sont à ce moment-là au Maroc et sous domination coloniale. Et donc dans ce cadre-là, il y a des rapprochements importants qui se font entre les surréalistes et les communistes. Ça se traduit en début 27 par une adhésion au Parti communiste. En 1950, il est élu au comité central. Et il va y rester jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il sera réélu jusqu'au congrès de 1982. Il meurt en décembre 1982. Donc il reste officiellement 32 ans au comité central. À partir de 1958, Aragon est vraiment installé dans l'histoire littéraire française. Par ailleurs, il commence à vieillir, en tout cas selon les critères de l'époque. Et donc il utilise son statut souvent pour dire... Oui, les jeunes, là, qui vous bousculent un peu, etc., etc. Bien sûr qu'ils ont tort, etc. Mais quand j'étais jeune moi-même, là. Donc, il appelle à ralentir le niveau de brutalité, si je peux dire, en direction de ces jeunes gens que le Parti communiste qualifie de gauchistes, en disant... C'est peut-être avec des gens comme eux, jeunes gens qui remuent et qui ne sont pas directement avec le Parti communiste, que vous ferez des vieux comme moi si vous savez vous y prendre, en gros. Donc ça, c'est une manière, on va dire, diplomatique de dire un désaccord, mais qu'on entend que si on a un peu d'oreille, si je puis dire, le désaccord.
La question de savoir si le comité central publiquement va prendre une position de choix par rapport à...
Cette oralité, elle met aussi en lumière le brassage sociologique que représente le PCF. Absolument. Pendant ces années-là.
Ben ça, c'est la grandeur, j'allais dire, du PC, incontestablement.
Roger Martelly.
En tout cas, pendant longtemps, dans les périodes que moi j'ai étudiées, en fait, jusqu'aux années 60, ce PC, d'abord, il est populaire par la sociologie de ses membres. Par exemple, entre 54 et 68... Les adhérents du PC sont majoritairement composés par des ouvriers et des employés. Ils sont, de ce point de vue, le reflet exact de la place des ouvriers et des employés dans la population active. Donc le PC est structurellement par ses membres à l'image de la société dans laquelle il agit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que... les militants communistes, en général, ne sont pas que des adhérents du Parti communiste. Ils sont très souvent aussi des syndicalistes. Ils sont dans des associations de tout type. Rajoutons à ça, il y a un enracinement qui, par le biais de l'implantation municipale, met les communistes en contact avec une véritable sociabilité populaire.
Jusque dans les années 2000, la composition sociale des membres du comité central est évidemment très, très, très différente de l'ensemble des autres forces politiques, y compris à gauche.
Frédéric Genevet.
On a souvent des gens qui sont d'anciens bons élèves de l'école primaire, mais qui n'ont pas pu faire d'études. Alors, dans les années 70, ça commence à changer avec l'arrivée de techniciens, de collaborateurs, d'élus. Donc, il y a une sociologie qui se modifie, mais qui se modifie lentement. Alors que ailleurs, dans les autres forces politiques, c'est les profs, les avocats, les énarques, alors selon les périodes, qui dominent. Et ça, c'est très, très, très différent. Hein.
Les directions sont, à l'époque, marquées par ces caractéristiques. Certes, ce sont les permanents qui structurent ce qu'on appelle l'appareil du parti, mais c'est permanent, sont issus du monde ouvrier, la plupart du temps vivent à l'intérieur des espaces ouvriers, dans les villes communistes, souvent dans des quartiers populaires, et il y a donc un véritable brassage d'expérience qui est enraciné dans la sociabilité, dans l'expérience populaire. Et en même temps, il y a beaucoup d'enseignants, des créateurs aussi, puisque l'une des caractéristiques du PC est de considérer qu'il doit y avoir une interpénétration entre le monde de la culture et le monde populaire.
Vous parlez d'un ton assez libre qui caractériserait le déroulé de ces réunions. Est-ce que le ton est aussi libre au début des années 1950 qu'il peut l'être dans les années 70?
Non, certainement pas. Il y a un changement sans doute à partir de 1964 avec Waldeck Rochet, secrétaire général, parce qu'il y a un gros renouvellement des membres du comité central. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent. Puis ensuite, il y a une volonté de réforme du Parti communiste, et donc la parole va se libérer par rapport à la période antérieure. Alors, ça n'exclut pas les moments de tension. Dans les années 80, un membre du comité central qui vote contre une décision de congrès, il n'est pas réélu au comité central. Mais ça change au début des années 90, où plusieurs membres du comité central qui étaient en désaccord vont être réélus. Puis ensuite, il y a une étape, on va dire, où non seulement ils sont réélus malgré leur désaccord, mais le discours officiel, ça va être de dire leur désaccord nous intéresse parce que ça nous permet de mieux débattre, d'avancer. Alors, il ne faut pas qu'ils deviennent majoritaires, évidemment, mais ça joue. Et puis en 1994, il y a un gros changement, c'est que le mode d'organisation dit du centralisme démocratique, en réalité, de la décision prise du haut vers le bas, est supprimée. Et au début des années 2000, lors des congrès, il y a même plusieurs textes qui peuvent s'affronter, ce qui n'était pas possible depuis au moins le milieu des années 20.
Je veux dire qu'il y a une question qui intéresse énormément toutes les masses, qui m'a été encore posée hier soir dans un meeting.
Marie-Claude Vaillant-Couturier, députée de la 52e circonscription de la Seine, 18 octobre 1956.
Qui va clôturer le débat actuellement en cours sur la politique générale du gouvernement. Il serait bon que les camarades discutent, parce que je pars ces murs pour que ça ne serait pas compris si nous nous abstenions, puisqu'il paraît impensable que nous votions pour. Mais je crois que c'est une question très grave et qu'elle met en cause l'application de notre politique de front unique, et que par conséquent, chacun d'entre nous n'a pas tous les éléments peut-être pour avoir une opinion définitive.
Toi, personnellement, tu es pour qu'on vote comment?
Moi, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que de voter contre. Je crois que actuellement, en tout cas, les communistes l'attendent indiscutablement, et je crois aussi que les masses qui sont en bordure de nous et qui sont pas d'accord avec la politique de Guy Mollet, ça serait pour eux quelque chose qui les aiderait à faire un pas.
Un mot sur la place des femmes dans ces réunions et sur leur droit à la parole. On entend beaucoup et Marie-Claude Vaillant-Couturier et Jeannette de Ramersch. Est-ce qu'il faut en déduire que c'est aussi un espace de parole politique pour les femmes, ou est-ce que les deux noms que je viens de citer font plutôt figure d'exception que de norme?
Effectivement, Jeannette Vermersch intervient souvent, est fortement présente. En plus, elle est au début de la période membre suppléant, ensuite membre titulaire, pour arriver jusqu'à la direction, bureau politique, etc. Marie-Claude Vaillant-Couturier aussi, effectivement, a un rôle important. Ça peut être d'autres femmes qui interviennent à d'autres moments donnés, mais en fonction de débats spécifiques, de questions spécifiques, souvent liées à l'UFF, à l'Union des femmes françaises, comme si le rôle des femmes était cantonné aux femmes. Ce qui n'est pas toujours vrai, parce qu'on voit bien Jeannette Vermersch intervenir sur d'autres questions à d'autres moments donnés. Mais la part des femmes, effectivement, est beaucoup moins nombreuse N'oublions pas que c'est un parti qui a présenté aussi des femmes depuis longtemps aux élections alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote et pas le droit d'être élues. Mais les travaux de Fanny Bunion le montrent bien. Et puis surtout, en 1944, avec l'ordonnance qui permet aux femmes de voter, et donc les premières élections en 1945, eh bien le PC va présenter de nombreuses femmes sur ses listes. Liste municipale, scrutin de liste aussi pour les élections législatives départementales, où on a de nombreuses femmes qui sont élues, sans oublier les femmes qui sont élues au Conseil de la République qui remplacent le Sénat. Donc il y a une volonté aussi de promouvoir les femmes. Alors peut-être encadrées dans le cadre de l'UFF, de l'Union des femmes françaises, sous l'égide de Jeannette Vermeersch, etc. Mais quand même, il y a cette présence. Donc on a une ambivalence, mais c'est vrai que dans les enregistrements sonores des comités centraux, ce n'est pas la majorité, loin s'en faut, de la participation ou de la prise de parole par les femmes.
Je crois que nous devons aller plus au fond pour examiner les racines de ces courants qui peuvent exister.
Jeannette Vermeersch-Torres, députée de la deuxième circonscription de la Seine, 21 novembre 1956.
De ne pas accuser les camarades d'être des petits bourgeois. Mais c'est un fait matériel qu'il y a des petits bourgeois. Ça n'est pas notre faute. Ça n'est pas la faute de la classe ouvrière. Ce n'est pas la faute des petits bourgeois eux-mêmes, mais c'est tout de même un fait que dans notre pays, il y a d'une part la grande bourgeoisie et la classe ouvrière, et qu'il y a une masse énorme de petites bourgeoisies. Or, Lénine nous explique que c'est seulement par l'analyse de la situation des classes que l'on peut arriver à comprendre les courants. Et il parlait justement à ce sujet d'un courant liquidateur existant à l'époque dans le Parti communiste de Russie. Ces couches existent. Et elles sont mises en mouvement à notre époque plus profondément qu'elles ne l'ont jamais été, étant donné la situation créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Qu'est-ce que ces enregistrements nous apprennent en termes de rhétorique, d'oralité, de rapport à l'expression?
Alors c'est une vaste question parce qu'on peut la saisir à plein de niveaux. D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on retrouve sans cesse, et surtout dans les années 50, je trouve de manière plus marquée, des références à une doxa communiste, celle du marxisme-léninisme, voire du stalinisme. Combien de fois on cite Lénine, combien de fois on cite Staline, et combien de fois on cite le secrétaire général Maurice Torres. Comme on dit d'ailleurs, tout le monde dit Maurice Torres. Donc la logique, bien sûr, liée au culte de la personnalité, on la voit bien se dégager dans ces années 50 sur ce modèle de construction politique. Mais au-delà de cet aspect, c'est plutôt les références à des choses vraiment pointues. Ce qui montre que non seulement ces membres du comité central, pour certains, ils y sont là depuis l'entre-deux-guerres, qu'ils ont pu faire l'école léniniste internationale qui formait les cadres à Moscou. Alors, en pleine clandestinité, hein, ils partaient avec de faux papiers, etc. Mais ils étaient formés à ce que j'appellerais la culture stalinienne, la culture communiste. Et puis, on s'exprime au comité central en fonction de sa culture propre, ouvrière, paysanne, autodidacte, normalien, homme de lettres, Aragon, Garaudy, une position importante dans le parti. Donc, ce n'est pas forcément une prise de parole qui est libre au sens où on peut dire n'importe quoi. Faut bien décoder ces enregistrements.
Je trouve que ce qui est frappant, c'est la place des débats et des questions théoriques. Mais il y a des centaines d'heures sur le sens à donner à un mot, à un concept.
Oui, ça participe de ce que j'évoquais à l'instant, de formation politique. N'oublions pas que la plupart de ces cadres et de ces militants n'ont pas connu la démocratisation de l'enseignement comme on le connaît aujourd'hui. Prenons par exemple Waldeck-Rochet. Ben, il passe son certificat d'études primaires, point, c'est tout. Après, il devient ouvrier agricole, ensuite ouvrier maraîcher, et puis bon, ben, il est happé par le parti, il devient permanent du parti. Donc il fait les écoles du parti, mais c'est le parti qui est son école. C'est lui qui lui permet d'intervenir dans les débats Althusser et Garaudy sur la place de l'intellectuel, citant Spinoza.
J'étais personnellement très, très heureux de lire dans l'Humanité la lettre.
Pierre Courtade, romancier et journaliste, 22 juin 1956.
Parti communiste de l'Union soviétique. Je crois que cette lettre était tout à fait nécessaire. Elle répondait à un désir non seulement des membres du parti, mais de l'opinion publique. Je crois qu'il est excellent qu'on ait pris position à ce moment et qu'on ait pris position de cette façon. Donc sur ça, il n'y a pour moi aucune question. Je voudrais simplement soulever quelques problèmes par rapport à cette lettre. Et je dis tout de suite que comme je n'ai pas écrit du tout cette intervention, ça peut présenter un caractère un peu fragmentaire. Mais enfin, ce sont plutôt des suggestions.
Est-ce qu'il y a des singularités propres à la parole du PCF ?
Comme toute institution, il produit ses rituels, ses codes et ses manières de parler. Par exemple, un truc très célèbre au sein du Parti communiste, c'est qu'on va toujours commencer son intervention en disant qu'on est d'accord avec le rapport. Il y a un rapport qui a été fait par un membre du bureau politique au nom du bureau politique et le comité central discute sur le rapport qui va être ensuite voté avec des amendements ou sans amendements. Donc chaque membre du comité central va commencer par dire « je suis d'accord avec le rapport » et il va dire pourquoi il est d'accord avec le rapport. Et puis d'un seul coup, le ton de la voix va se modifier. Il va introduire un « mais » et tout le fond de l'intervention est dans ce qui suit le « mais » et le changement d'intonation. Et ça s'entend. Bon, il faut avoir une certaine habitude de l'oralité communiste, mais ça s'entend. Alors, ce qui est assez étonnant, moi, je trouve, c'est que le ton est assez libre, en réalité. Et il y a une forte attention. Les membres qui interviennent sont rarement coupés. J'ai en tête un comité central de 1956 qui discute du rapport Khrouchtchev. Et il y a un membre du comité central, Pierre Courtade, qui commence par dire qu'il est d'accord. Et puis, il continue son intervention avec « mais ». Et puis, il commence à exprimer des nuances, des désaccords. Et il parle très longtemps. Et à un moment donné, il est coupé par Maurice Thorez, de manière assez sereine. Et ensuite, Pierre Courtade reprend la parole et continue son intervention. On est en 1956, au moment où Maurice Thorez exprime plutôt des désaccords avec le rapport Khrouchtchev. Donc ça pourrait être un moment de forte tension. Et là, on entend autre chose. Et d'ailleurs, Pierre Courtade sera réélu au comité central au congrès qui suit.
C'est tout à fait évident. Nous n'avons pas à nous couvrir la tête de cendre.
Le même, bientôt interrompu par Maurice Thorez.
L'autocritique des fautes de Staline, ça serait tout à fait absurde.
Pierre, en passant, parce que je ne sais pas sur ces questions, le déplacement de certains peuples, je ne considère pas que c'est une chose de Staline seule. Je le dis très franchement.
Oui.
Et je dis que pour certains, je considère que, pour moi, ça paraissait très justifié. On m'a aussi justifié que le départ des Sudètes de Tchécoslovaquie. La chose n'était pas si simple, sans compter que c'est pas Staline seul, encore une fois.
Mais en ce qui concerne le déplacement des peuples, je crois que c'est tout à fait vrai. Mais toutefois, il ne parle pas de la Volga. Oui, justement pas, parce que celui-là, il le justifie. Mais par exemple, les Tatars de Crimée, il faut bien le dire tout de même, les Tatars de Crimée ont été déportés en 1947, c'est-à-dire 2 ans après la fin de la guerre.
Il y a évidemment une dimension, il y a des tics, si je puis dire, il y a une langue que sécrète un peu naturellement chaque organisation, donc ça bien sûr. C'est pour ça que ces archives sonores, on va pouvoir les picorer comme ça sur le site.
Guillaume Rumbokwashi.
Mais celui qui va aller sur le site et qui va écouter ces archives, il va se dire c'est du français, donc je le comprends ce français. Oui, il comprend ce français, mais néanmoins, c'est un français particulier parce que c'est un français qui est codé comme n'importe quelle langue, de n'importe quelle structure. Il y a des épithètes homériques parfois quand on va évoquer tel ou tel pays, telle ou telle personne, il y a toujours un adjectif qui va aller avec. Je travaillais il n'y a pas longtemps sur les questions de la guerre, par rapport à la guerre du Vietnam. Par exemple, souvent, c'est vrai que c'est la lutte héroïque du peuple vietnamien. Par exemple, c'est une espèce de syntagme, ça fait tout un seul bloc, si vous voulez, des choses comme ça qui reviennent. Et donc, si vous ne dites pas ça, vous dites autre chose, ça veut peut-être dire qu'il y a une inflexion qui est en train de se faire. Vous voyez, par exemple...
C'est très intéressant de voir cette pluralité d'accents. accent ch'ti, accent bourguignon, accent occitan, etc. etc. On pourrait, rien qu'à l'écoute et en travaillant bien sur ces enregistrements sonores, dire d'où sont originaires, où ils ont grandi. Et ça me fait penser, effectivement, excusez-moi de ramener encore à Val-des-Crochets, mais lorsqu'il meurt en 1983, un journaliste, je ne donnerai pas son nom, mais écrivait dans un grand quotidien du soir, il roulait les R comme un russe. Mais non, il ne roulait pas les R comme un russe, il roulait les R comme ceux de la Bresse louhannaise. C'est-à-dire, en fin de compte, il y a tout un apprentissage linguistique lié aux patois, aux accents, etc. Et que l'on retrouve aussi dans un vocabulaire parfois ouvrier, avec une gouaille de titi parisien aussi qui est présente.
En effet, dans la plupart de nos départements,
Jean Lyonte, député de l'Aude, 20 octobre 1955.
Et les dernières élections cantonales nous ont prouvé que nous avions de grandes faiblesses, le comité central dont nous aider sérieusement à redresser. En un mot, nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité aux paysans. D'ailleurs, le paysan nous regarde avec d'autres yeux que ceux qu'il nous regardait hier.
C'est le comité central des 19 et 20 octobre 1955. On est à un moment particulier puisque le Parti communiste a développé d'un point de vue théorique sous l'égide de Maurice Thorez l'idée de la paupérisation absolue de la classe ouvrière. Donc on est dans un moment de guerre froide, de revendications importantes. Le PC est aux marges, en quelque sorte, du pouvoir, puisque depuis 47, il n'y a plus de possibilité qu'il rentre au gouvernement, mais il reste important. L'électorat a plus de 25%, c'est encore un parti bien implanté, et surtout, apparaît à ce moment-là, dans ce comité central, la volonté de dire, eh bien, à la suite des mouvements paysans, des barrages de 1953, on n'est pas allé assez loin dans les revendications, et en particulier les revendications concernant le prolétariat agricole, les ouvriers agricoles. Ce qui renvoie, de fait, à un paradoxe. C'est quoi l'implantation communiste dans le monde rural? Si on la limite aux paysans, eh bien, d'aucuns disent qu'il faut la limiter simplement aux ouvriers agricoles.
En Union soviétique, et là, nous avons un véritable moyen d'éclairer les paysans et de leur faire voir ce que feront les communistes d'eux demain quand ils auront le pouvoir.
C'est la ligne défendue, j'évoquais tout à l'heure Maurice Carouet, qui a un discours plus ouvriériste que Val-des-Crochets, qui lui dirige la section agraire depuis 1934 et qui édite un journal pour le monde rural, La Terre, mais qui s'adresse à l'ensemble des paysans, plus bien sûr aux petits propriétaires que aux gros propriétaires capitalistes, comme on disait à l'époque. Donc il est clair que c'est là-dessus que ça se joue, la différence. Entre est-ce qu'on défend un petit paysan qui exploite aussi une main-d'œuvre agricole, ou est-ce qu'on défend le moteur doit être simplement l'ouvrier agricole. Et c'est vrai que il y a une affiche du Front populaire de 1936, hein, c'est « Défense de la petite propriété ». Donc on s'inscrit dans un discours qui était le discours radical socialiste, le discours de la Révolution française. Donc on s'inscrit dans une ligne ancienne et qui n'a rien à voir avec la collectivisation des terres, qui n'a rien à voir avec les sauf-causes et les colcauses. La seule fois en France où on fait des colcauses, hein, c'est en 1943, en Corse. Et aussitôt, il arrive un télégramme de Moscou, je cite de mémoire, « Arrêtez toutes vos déviations gauchistes, en France c'est la défense de la petite propriété ».
Mais cette notion de brassage, elle renvoie aussi à quelque chose d'important qui est très perceptible, je trouve, dans ces enregistrements. C'est la dimension affective de l'appartenance au parti.
Ah, mais c'est l'affectivité totale.
Roger Martelly.
J'ai vécu, par exemple, une période de crise intense en 1984-1985, où à la suite de plusieurs échecs électoraux, il y a un débat qui s'engage avec l'émergence d'une opposition assez forte, ce qu'on appelait les rénovateurs, plus tard les reconstructeurs, puis les refondateurs, bref, période de crise. Et j'ai assisté à des séances de comité central très longues, qui se finissaient parfois à 2h, 3h du matin, avec un engagement d'une tension telle que certains se mettaient à pleurer carrément pendant la réunion. Ce qui dit qu'à un moment donné, dans cet univers communiste, les relations de pouvoir qui existent comme dans toute institution n'ont jamais éteint, j'allais dire, la flamme de l'engagement moral qui est à la base quand même d'un engagement communiste, comme d'autres, mais en tout cas de l'engagement communiste.
On se donne à fond, et puis sur 100 ans d'histoire, dans des périodes de risques maximaux, la résistance, la clandestinité, l'engagement pour la décolonisation. Quand vous êtes communiste, vous avez le sentiment d'une extrême fraternité. Alors évidemment, quand ça se retourne, c'est comme dans les familles, ça peut être très très dur, hein. Mais c'est un engagement total, ouais.
L'archive sonore, c'est un outil qui rajoute à la froideur de l'analyse politique la chaleur de l'affectif. Dans l'archive sonore, ce qui se manifeste, c'est pas simplement l'intellect de celui qui parle, c'est quelque chose qui reflète tout à la fois sa position à l'intérieur de l'institution, mais qui reflète aussi sa propre culture, sa propre morale, sa propre éthique, sa façon d'être dans le monde et dans le Parti communiste. Et donc, l'intérêt, c'est d'essayer de voir comment celui qui parle manifeste le fait qu'il est en position élevée, ou au contraire manifeste sa modestie, il dit des choses mais en s'excusant parfois même de dire ce qu'il dit, ou parfois aussi dans les périodes compliquées l'utilisation de la ruse. C'est ça qui en fait la richesse. Évidemment, ça nécessite beaucoup de temps, c'est fastidieux parce que, pour vous dire les choses franchement, l'ayant vécu d'ailleurs de l'intérieur des directions du parti, il n'y a rien de plus rasoir qu'une réunion de direction politique. Voilà.
Écoutez, camarades, je vais vous dire une chose. Vous m'excuserez de parler sur des choses peut-être anecdotiques et comme ça. Une fois, dans un comité central, j'étais frappé d'une chose. Maurice était à cette tribune ici. Puis, il y a eu une suspension, tout le monde s'est levé. Et Maurice est resté tout seul à cette tribune.
Merci à l'archiviste Pierre Boichu
et
aux historiens Frédéric Genevet, Roger Martelly, Jean Vigreux et Guillaume Roubaud-Couache. Merci également à Aliette Ovine pour son soutien toujours aussi précieux.
J'avais envie d'aller parler à Maurice.
Prise de son, Martin Troadec, Romain Lenoir, Nadège Antonini et Stéphane Touvenant.
Je comprends absolument. Mais en même temps,
mixage,
oui, c'est vrai,
Antoine Viossa, Archivina, Christelle Rousseau, chargée de programme, Marivana Bolivier et Anaï Morales.
Des aspects, vous direz, anecdotiques, secondaires, non. À mon avis, ça révélait un état d'esprit qui n'était pas bon.
Coordination, Emmanuel Laurentin.
Je crois que l'affection, la confiance absolue que nous avons dans la direction de notre parti suppose également l'établissement de rapports plus directs, plus humains, plus, disons les choses, plus francs, quelquefois.
C'était Les Voix du PCF, archives sonores du communisme français, deuxième partie. Un documentaire d'Anne Toscan-Giudès, réalisé par Anne Fleury.
On parle parfois du coup de la personnalité. Maintenant, il y a des camarades, des sergents, qui disent « Mais Maurice, qu'est-ce qu'il a fait ?» Eh bien, à peu près régulièrement, dans les comptes rendus,